pour Roger Federer à l'Open de tennis d'Australie. Le joueur serbe vainqueur de l'épreuve en 2008 rencontrera en finale le vainqueur de la rencontre, David Ferrer, Andy Murray.
Des chiffres qui donnent le vertige, des milliards de francs de commissions et sans doute le scandale le plus retentissant des années 90, celui des frégates de Taïwan. Mais aussi, on le sait moins, beaucoup de morts suspectes.
Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, tous les samedis à 13h20 sur France Inter.
France Inter présente La Tempête de Shakespeare. Mise en scène par Declan Donnellan au Théâtre Les Gémeaux à Sceaux jusqu'au 13 février. La tempête de Shakespeare, ou la vengeance de Prospero sur ses ennemis. Elle s'accomplira grâce à l'illusion, la réalité devenant mirage et le songe réalité. Retrouvez La Tempête dans les émissions de France Inter.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet. C'est là-bas si j'y suis.
Oui, Daniel Mermet, écoute, c'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends que tu vas nous quitter. Bon, en même temps, une promotion comme ça, ça se refuse pas, quoi. Daniel Mermet, au CSA, félicitations, et encore une fois, beaucoup excuse-moi, non, je me suis trompé, excuse-moi. Continuez tes émissions, Daniel, hein. On les écoute et on en a besoin. Allez, gros bisous, au revoir.
Voilà, je suis outrée d'entendre que de nouveau on va donner une prime. Alors il y a eu la prime au recteur, maintenant il y aura la prime au directeur d'établissement scolaire. Moi j'appelle pas ça une prime, j'appelle ça de la corruption. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que non seulement on supprime des postes pour les enseignants, mais aussi les DGA, c'est-à-dire les dotations horaires par établissement. Donc c'est la peau de chagrin tous les ans, on est obligé d'avoir des élèves dans des classes toutes petites et on se retrouve avec des effectifs de 35. L'enseignement va vraiment très 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 mal. Ce serait bien que vous fassiez une émission dessus d'ailleurs. Peut-être que ça a déjà été fait. Je ne peux pas écouter toutes vos émissions puisque l'horaire a été décalé. Voilà, enfin en tout cas, l'enseignement va très mal. Il est temps de se lever et de faire quelque chose. Merci, au revoir.
Bonjour le répondeur. Nous sommes en direct, je suis en direct du panier à salade qui a été mis en place autour du dîner du siècle. Alors nous sommes à peu près une quarantaine embarqués. Ça a été très rapide là, ça y est, nous partons. Donc dès 19h15, nous étions sur place, une quarantaine de personnes pacifiquement installées sur le terre-plein sur lequel était disposée la station de bus. Et déjà, de flic en civil, se regrouper autour de nous et nous inviter à quitter les lieux assez rapidement. Dès la première marque, se déployaient des brigades et des brigades, à peu près 60 personnes, évidemment armées jusqu'aux dents, qui nous ont très vite encerclés et un par un embarqués dans ce fameux panier à salade, suite évidemment à une fouille sur mesure.
Bonjour à tous. En Tunisie, la révolution pour la liberté, je préfère l'appeler ainsi, traverse un champ parsemé de mines. L'ancienne dictature déchue a prévu une transition constitutionnelle machiavélique. Le président de la République intérimaire n'a aucune envergure politique. Il est faible et il gouverne sous l'influence des ténors de l'ancien parti au pouvoir. Il a été contraint de nommer un premier ministre, M. Ghannouchi, un fidèle à Ben Ali pendant plus de 17 ans. Pour protéger ses collègues dans l'ancien gouvernement et dans le parti, le Premier ministre, avec la complicité naïve et opportuniste de quelques opposants qui ne représentent rien aux yeux du peuple, joue la carte de l'enlisement, du pourrissement et du chaos face à une centrale syndicale, l'Union générale des travailleurs tunisiens, unique force qui a le soutien populaire dans le pays. Par principe, je suis contre toute gouvernance militaire. Mais dans le cas présent de la Tunisie, l'armée nationale ayant prouvé au monde entier qu'elle était républicaine, intègre et honnête, je pense qu'il aurait été plus favorable à la révolution de la liberté qu'elle prenne provisoirement le pouvoir après la chute du dictateur Ben Ali, pour nettoyer au karcher toute la pourriture de l'ancien régime qui résiste encore. Malheureusement, les puissances occidentales qui suivent de près le processus veulent une mini-révolution de la liberté, une révolution parfumée au jasmin. Merci.
Salut Daniel, c'est l'association des parents d'élèves de l'école publique de Parisot en Tarn-et-Garonne. Aujourd'hui, jeudi à 17h, appel à manifestation devant l'inspection académique de Montauban. Pourquoi ? Dans notre bassin d'école, 3,5 postes d'enseignants primaires sont menacés par le démantèlement national programmé. T'es pas sans savoir, 16 000 postes à la rentrée. Nous ne sommes pas qu'une vitrine à touristes. Nos villages ruraux sont directement visés, et notamment Parisot, Quélus et Saint-Antonin. La population est solidaire de nos actions. La mobilisation est déterminée et les actions ne font que commencer. Nos enfants en milieu rural ont droit à une éducation de qualité autant que les autres. Donc rendez-vous cet après-midi à 17h à Montauban. Départ à 15h30 de la place du Foirail de Parisot. Allez, salut Daniel.
Oui, bonjour. Je voudrais vous signaler que ce jeudi 27 janvier aura lieu le 3e Café Repère à Génolac, dans le Gard, à 19h au Café de l'Union. Nous aborderons le thème du gaz de schiste en Cévennes. Venez nombreux, merci.
Oui, bonjour. On est mercredi 26 janvier. Je viens d'écouter l'émission de Daniel Mermet. Chapeau, mon grand. Écoutez, pour la dette du Congo, voilà, mise à l'épreuve pour Dominique Strauss-Kahn. Hein? S'il est socialiste, j'aurais bien voulu qu'il écoute cette émission. Au revoir.
Mais il a écouté, c'est évident. Il a écouté ce qu'on a dit sur la dette odieuse, sur ces dettes qui embarrassent et qui entravent des pays comparables au Congo que nous allons quitter aujourd'hui. Ça fait un bout de temps qu'on est là, on y est bien, on resterait bien encore. Mais d'autres sujets et d'autres horizons nous appellent. Et aujourd'hui, on va passer cette heure, à toujours à Lubumbashi, autour de la GECAMINE. La GECAMINE, l'Union minière du Haut-Katanga, ça a été une très longue histoire. On cherchait un lien entre le début de la colonisation par Léopold II jusqu'à nos jours. Et bien le voilà, pour ce qui concerne le Katanga, voilà bel et bien le lien, cette histoire de l'industrialisation. On a industrialisé, là, pour le coup, dans cette région. Et ça a été une longue histoire qui reflète à la fois toutes les étapes, on peut dire, tous les âges de la colonisation. La colonisation brutale, celle de Léopold II, l'impérialisme pur. Et puis ensuite, la Belgique, qui colonise d'abord très durement, très sauvagement, puis ensuite qui va aller vers un colonialisme plus paternaliste, plus insidieux, on va dire. Il faut quand même ménager la bête. Et puis ensuite, ce sera le néocolonialisme des années 60, de Mobutu, et puis maintenant, aujourd'hui, la mondialisation que nous connaissons. Et il y a une filiation historique dans tout ça qui passe par l'histoire de cette énorme entreprise qu'a été l'Union minière du Haut-Katanga, qui a entraîné et qui a eu pour conséquence l'enrichissement formidable de la Belgique de Brel, au temps de où Bruxelles chantait, c'était bel et bien ça. C'était au temps où Bruxelles bruxelait, c'était ça. Et c'était dû à ça, cet enrichissement formidable. Et puis, avec le déclin du Congo, déclin de la Belgique également. Et oui, il y a un lien. Si bien qu'il y a eu un mouvement qui voulait qui militait pour le rattachement de la Belgique au Congo il y a peu de temps. Et c'était pas si bête, c'était drôle, mais c'était pas bête du tout. Il y avait une idée là de retournement comme ça historique. Aujourd'hui donc, vous avez compris, l'Union minière du Haut-Katanga à Lubumbashi. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Ce soir, jeudi 27 janvier, au Café Repère de Brignoles, à 19h30, nous vous proposons la projection du film de Paul Sardou, « Libre, solidaire, nous marchons ». Ce film évoque la Marche mondiale des femmes, qui est un mouvement mondial d'action féministe. Il sera suivi d'un débat et d'un repas façon auberge espagnole. Pour les non-initiés, chacun apporte un petit peu et on partage. C'est donc ce soir, au Café de l'Oasis, à Brignoles. Salut Daniel et salut à tous les AMG.
Salut Daniel, salut les AMG. Je suis un peu inquiet et étonné de ne pas entendre depuis un moment Frédéric Lordon, qui nous redonnait un petit peu de baume au cœur. D'autant que j'ai entendu dans un journal de France Inter qu'à Davos, en ce moment, donc les participants retrouvaient le moral. Je pense que quand on a le moral à Davos, nous, pauvres mortels, on a tout lieu de s'inquiéter. Alors, est-ce que c'est encore la fête de la finance reine? Est-ce que ça continue? Ça pourrait d'ailleurs être confirmé par le sympathique bandeau publicitaire qui figure sur le site de France Inter et qui nous fait l'apologie de la spéculation sur le Forex, le marché des monnaies. On peut gagner, je cite, 3 500 euros pendant une demi-heure, je suppose, pour peu qu'une monnaie baisse ou mieux encore s'effondre en entraînant des émeutes de la faim. Alors là, c'est le jackpot. Donc un grand besoin de Frédéric Lordon. C'était un autre Frédéric à Amiens.
Salut les AMG, c'est la reprise pour le Café Repère de Genève qui se déroulera ce lundi 31 janvier à 19h30 au Café Gervaise, 4 bis boulevard Vianstasi. Pour cette soirée de débat, nous avons choisi comme thème Internet, outil démocratique ou contrôle du pouvoir. Avec Internet, avons-nous vraiment un outil démocratique, un outil de contre-pouvoir ou sommes-nous toutes et tous contrôlés ou susceptibles de l'être? Pour ce débat, nous aurons la chance d'avoir deux intervenants, Michel Schwery, journaliste au quotidien indépendant Le Courrier, et Pierre Virch de la librairie libertaire et alternative Fahrenheit 451. Lundi 31, 19h30, salut à tous, c'était José de Genève.
Bonjour Daniel, donc le collectif Fini les concessions, vous a appelé tout à l'heure depuis un quart de police. Bon, depuis on est sorti à peu près vers 22h. On a quand même une inquiétude sur un troisième quart de manifestants qui auraient été embarqués après nous, a priori avec violence, mais on n'en sait absolument pas plus. Donc voilà, on attend d'éventuelles informations. Sinon, on tenait quand même à féliciter le préfet de police de Paris, Michel Gaudin, qui est aussi membre du siècle, pour ce déploiement policier qui était vraiment tout à fait... efficace, on va dire. Hein. Plusieurs centaines d'agents, y compris qui contrôlaient toute la ligne 8 du métro pour empêcher les gens de descendre à Concorde. Enfin, c'était quelque chose qui était quand même à voir. Hein. On va citer un peu Denis Kessler qui justifiait dans une tribune récente au Monde l'existence du siècle et la défense de sa liberté d'association comme relevant d'un enjeu démocratique. Il reprenait des propos d'Olivier Duhamel qui disait « Nous vivons dans des couloirs ou derrière des cloisons. Le siècle ouvre des fenêtres et construit des ponts. »
Alors j'ai un commentaire à faire sur l'histoire de Johnny Hallyday qui a été perquisitionné. Dans le début des années 60, ma mère a touché à des allocations familiales grâce à la redistribution normale, hein, qui venait des impôts français. Et j'ai acheté les 45 tours d'un nommé de Johnny Hallyday. Alors donc j'en conclus donc, s'il n'y a pas d'impôts, il n'y a plus de redistribution, donc il n'y a plus de Johnny Hallyday. Je m'appelle Marie-Claire et j'habite à Saint-Nazaire. Au revoir.
On a coutume de dire à Elisabethville, lorsque la cheminée de l'Union minière ne fumera plus, il n'y aura plus de Katanga.
ORTF.
Lorsque nous sommes arrivés, la grande cheminée de la mine ne fumait pas.
11 janvier 1963.
L'enjeu de la lutte pour l'annexion du Katanga porte un nom. L'Union minière. Premier producteur de cobalt du monde, troisième producteur de cuivre, les taxes et droits divers versés par elle au trésor katangais ont permis jusqu'ici à Tshombe d'éviter l'annexion de sa province au gouvernement central de Léopoldville. Les Nations Unies se sont alors fait les champions du gouvernement congolais. L'Union minière est un fromage que beaucoup voudraient s'attribuer.
Bonjour.
Bonjour.
Salut, on a un casque ?
Ah, on va mettre des casques. On va mettre des casques bleus. Casque. Voilà, j'ai mon casque bleu. Ah, il faut mettre une blouse aussi ?
Oui, oui.
Oh là là.
C'est bon,
par là ?
Ok.
Allez.
Ah, parfait. C'est par là.
Ah, ben voilà. Ça, c'est une friche industrielle. Hein.
C'est impressionnant, quand même.
Ah oui, on est dans un champ de ruines, en vérité. Hein. On est dans un champ de ruines. La fameuse cheminée qui faisait la fierté de... Attention. Qui faisait la fierté de... C'est Camille, là.
Elle fume plus.
Alors là, ce qui est formidable, regarde, là, sur les côtés, c'est que tous les remblais sont piquetés de verdâtre, et ça, c'est le cuivre. Et devant nous, on a toutes les tubulures rouillées. Là, il y a le terril qui est en réexploitation, réutilisation. Là, il y a des wagons citernes rouillés, arrêtés. Au-dessus, il y a une sorte de mirador au milieu de tout ça. Puis autour, là, c'est un champ de ruines. Impressionnant, hein.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Passif, j'y suis avec Guy Vanctil, Katanga, les mangeurs de cuivre.
Flight number 2, arriving from...
Ce vieil escalier rouillé, là, n'est pas très rassurant. Incroyable.
que ce sont les fours, les convertisseurs. On produisait 600 tonnes de cuivre blister jour.
Ça, c'était les anciens fours.
Les anciens fours avant, oui.
Et là, c'est complètement à l'arrêt.
Et c'était un four aussi, un four d'attente.
L'usine a été construite quand, finalement?
L'usine a été construite en 1910 et la première coulée a eu en 1911.
Alors, ce que nous disait votre directeur tout à l'heure, c'est que l'usine, là, qui est au-dessus de nous, toute cette partie de l'usine, a été complètement détruite, pillée par des gens qui sont venus chercher les tôles, la ferraille.
Enfin, ça ne fonctionne plus pour le moment.
Ça va falloir le raser, non? Ça, tout ça, parce que là, je vois, elle va embler. Du coup, comme il n'y a plus de tôle...
Raser, c'est trop fort, puisqu'on ne sait jamais, oui. Parce qu'il y a quand même l'ossature qu'on peut reprendre, il y a beaucoup de poutrelles que nous pouvons récupérer. Il y a même des ponts roulants.
C'est énorme, c'est énorme.
Donc, c'est un beau site pour des installations éventuelles.
Mais c'est vrai que c'est un squelette rouillé, là, pour l'instant.
Les nègres sont des travailleurs détestables, paresseux, sans bon vouloir. Et depuis qu'ils savent qu'en allant trouver le juge, si on les frappe, ils ont raison, on ne peut plus rien en obtenir. Ainsi, dans un courrier, s'exprimait un colonisateur. Face aux difficultés qu'il éprouvait avec d'autres pour faire travailler dans cette usine où nous sommes. Les indigènes qui refusaient, les indigènes récalcitrants. Et il faudrait commencer cette heure en saluant toutes les résistances face aux colonisateurs. On l'oublie trop souvent, on présente le colonisé comme la victime, le dominé. Mais ce dominé, cette victime s'est battue et partout où le colon est arrivé, partout où le conquistador est arrivé, partout où l'empire est arrivé, partout où le capitalisme est arrivé, l'indigène, l'autochtone a résisté, ou presque partout, et ça a été le cas ici au Congo, ce qu'on appelle aujourd'hui le Congo, la République démocratique du Congo. Ça a été le cas face aux hommes de Léopold II, ça a été le cas face à l'industrialisation de cette région prospère du Katanga, prospère en minerais et essentiellement de cuivre et de cobalt. On s'est défendu et on s'est défendu de façon parfois sous la forme d'une résistance passive. Non, on ne voulait pas aller travailler dans ces usines. Comme en France, comme en Europe. Au début de la révolution industrielle, ça a été toute une affaire pour convaincre les paysans d'aller travailler dans les usines. Ils s'y opposaient, ils ont résisté, il a fallu beaucoup d'efforts, parfois violents, pour les pousser à travailler dans les usines et travailler à la chaîne. Eh bien, ça a été la même réaction en Afrique, ça a été la même réaction dans ce Congo. Et on va voir comment, peu à peu, on est passé pour les soumettre et les convaincre de la chicotte, le coup de fouet, jusqu'à la DRH, quasiment, hein, la direction des ressources humaines, avec des ménagements dans le management, mais au fond, pour les mêmes finalités. On est passé du coup de fouet, de la chicotte, à la manipulation psychologique, mais c'est toujours la même démarche, c'est toujours le même but, c'est toujours la même histoire que nous voyons ici sous sa version africaine à travers cette histoire qui pourrait s'appeler les veines ouvertes de l'Afrique noire. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas, si j'y suis, au Katanga, les mangeurs de cuivre. C'est ma
devant toi comme un seul homme. Tiamatou Yoga. On est fatigué quoi. Plus rien rempli dans tout.
Ah, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Oh, on vient bien loin pour voir des choses qu'on a très près de chez nous, parce qu'un terril comme celui-là, on en a un à Lens, dans le nord de la France, et on a des friches industrielles dans tout le nord de la France, et on a des cheminées, peut-être pas de cette taille-là, mais pas loin. La différence et la surprise, c'est qu'ici, on est en Afrique, à Lumumbashi, ancienne Elisabethville, et on est au pied de cet extraordinaire terril. Et puis, là, il y a toutes ces friches industrielles qui aboutissent à cette énorme cheminée qui est le symbole de la ville même.
La cheminée, la montagne de Terril, les deux.
Un trait et un triangle hein, oui. Qui symbolisent la ville. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de ça, parce qu'aujourd'hui, ça a l'air d'être un peu moribond, cette Gécamines.
Oui, en fait, c'est en 1906 que le roi Léopold II va créer l'Union minière du Haut-Katanga.
Union minière du Haut-Katanga. Ça, c'est l'ancêtre de la Gécamines.
Oui. L'Union minière avait une concession de 34 000 km².
C'était plus grand que la Belgique, ça faisait.
Oui, c'est-à-dire ici, à Kasumbalesa, et puis Kolwezi. C'est en fait le prolongement de la Copperbelt zambien.
La ceinture de cuivre.
Oui. Alors en 1906, on crée. En 1911, le 30 juin 1911, il y avait la première coulée de cuivre ici à Lubumbashi. Mmh. Et donc, on va commencer à construire les usines ici à Lubumbashi, à Likasi, donc à 120 km d'ici, et à Kolwezi, qui est actuellement le poumon économique de l'industrie minière.
Dans quelles conditions? Décrivez-nous un peu les conditions de cette exploitation.
Alors, les conditions, vous voyez, dans cette région ici, les habitants de la contrée ici ont commencé à exploiter le cuivre avant l'arrivée des Blancs.
Voilà, c'est ça. C'est une tradition ancestrale.
Oui, c'est pourquoi on les appelle les mangeurs de cuivre. Ils exploitaient, mais s'ils ont commencé à refuser, c'est à cause des accidents mortels qui se multipliaient. Quand, par exemple, dans un village, vous rencontrez beaucoup de deuils, etc., ou bien des gens rentrent avec un bras cassé ou une jambe cassée, alors là, ils ont peur. Pour cela, il a fallu qu'on aille recruter dans le nord du Katanga et puis dans le Kasai. Mais quand on va recruter au loin, ces gens qu'on va recruter au loin, ce sont des gens qui ne seront pas désertés. Alors, ils étaient maintenant dans les camps. Vous voyez, là-bas, c'est le camp des travailleurs.
Qui ne pourront pas partir.
Non.
Oui, ils seront coincés.
Donc, voilà. Ils sont coincés, ils sont dociles. Alors, voilà un peu la politique. Voilà.
Et ça a été longtemps une politique sociale très dure vis-à-vis des ouvriers, jusqu'au milieu des années 20.
C'est-à-dire qu'on exploitait. Hein, l'homme, il y a, d'après les récits de vie qu'on a pu récolter, à peu près 17 heures de travail par jour.
17 heures de travail par jour.
Ouais. On les pressait comme des citrons.
Une période de colonialisme dure, quoi.
Dure, oui. Jusqu'au moment où on stabilise la population, c'est alors qu'on va maintenant essayer d'améliorer les conditions de vie.
Dans les années 20. On va passer au modèle du capitalisme paternaliste européen qu'on a en France, en Belgique et en Europe.
Alors, on est avec Donatien Dimoué, qui est professeur à l'université de Lubumbashi, historien de ce lieu, de cette Gécamines, ancienne union minière du Haut-Katanga, vous avez vu, vous avez compris, qui caractérise vraiment cette ville, on peut dire toute cette province du Katanga, avec, comment a-t-on fait pour recruter les bras qu'il fallait pour faire marcher cette entreprise. Ça n'a pas été simple. Un cadre de l'Union minière en 1913 disait que, je cite, « souvent, l'indigène préfère aller en prison plutôt que de travailler ». Et au début des années 20, les indigènes en question repartaient en groupe ou en caravane et ils s'enfuyaient. Après quelques journées de présence sur les chantiers, ils retournaient simplement chez eux, dans leur village, dans leur brousse, tout à fait hostiles à cette activité et aux conditions de cette activité. C'est, au fond, c'était l'esclavage par d'autres moyens. Alors effectivement, ce que dit Donatien Dimbwe, on est allé recruter dans d'autres parties du Congo, on est allé recruté aussi au Rwanda, en Urundi, ce qui n'était pas encore le Burundi à l'époque, pour recruter cette main-d'œuvre. Et on a des images qui représentent ces gens qui arrivent avec une natte sur le dos qui leur servira de lit et en rang, aligné. Et celui qui sort du rang, il se prend un coup de fouet sur le museau. Et il faudra travailler de cette façon. Pendant ce temps-là, le cuivre est très apprécié par les marchands de canons et surtout par les fabriques d'armement. 14-18, ça vous dit quelque chose? Il en faut des métaux, il en faut du cuivre. Et ça vaudra la première prospérité de cette entreprise qui est très vite contrôlée par la Société Générale de Belgique. Et voilà. Et pendant ce temps-là, à Bruxelles, on chantait. Et pendant ce temps-là, Bruxelles bruxelait.
Alors, à partir de 1925, lorsqu'on décide la stabilisation, c'est ça la politique sociale qui est mise sur pied. Donc, la ration alimentaire, l'enseignement, le logement, c'est payé, les soins médicaux.
Il y a des quartiers qui se construisent pour
Vous avez le quartier, le camp. Quand nous sommes passés par là, à notre droite, c'était ça le camp des travailleurs.
Vous avez grandi dans cette ambiance, dans un camp d'ouvriers de la Gécamines. Oui. Racontez-nous un petit peu ce que c'était. Parce que c'est tout à fait comparable, vous le savez bien, avec ce qu'on a eu chez nous, en France, notamment. Je pense à Michelin, par exemple, les usines Michelin de pneumatiques. On essaie, vous étiez on appelle ça des bibes Michelin. Hein. À la naissance, vous étiez un petit bib, et puis il y avait le cimetière Michelin. Et entre les deux, vous étiez la maternité Michelin, l'hôpital Michelin, l'école Michelin, tout, quoi. Tout était Michelin. C'était pareil ici.
Oui, bon, ici, nous avons notre vie du camp, parce qu'il y a l'Open, œuvre pour la protection de l'enfance noire. Oui. C'est-à-dire, la maman enceinte se rend là-bas, c'est là qu'on fait la PZ, les consultations prénatales, etc., jusqu'à ce qu'elle va mettre au monde, et nos mamans allaient au foyer social. Et dans ces foyers sociaux, il y avait des demoiselles blanches qui apprenaient à nos mamans à bien préparer, à repasser, à coudre, etc. Parce qu'en fait, il fallait faire de la femme du travailleur une bonne gouvernante. Et pendant ce temps, nous, quand on atteignait 14 ans, on va vous mettre à l'école de formation professionnelle. Pour les garçons, c'est pour être auxiliaire des Blancs. Mais pour les filles, c'est pour devenir les bonnes ménagères.
Tout un projet de société, quoi. C'est toute une vision du monde, un projet de société qui est celui de tout le colonialisme, quoi. L'Église est influente dans cette affaire.
L'Église est très importante, surtout l'Église catholique. Oui. Parce qu'en fait, on a parlé pendant la période coloniale de la trilogie coloniale, c'est-à-dire l'administration coloniale, les entreprises coloniales et l'église coloniale. Parce que les trois devaient contribuer à l'implantation de la colonisation. Quand on engage quelqu'un, c'est pour qu'il travaille et qu'il produise. Donc il fallait l'entretenir d'un certain soin.
Pour qu'il soit le plus productif possible.
Oui.
Comme on bichonne bien un animal. Un cheval, par exemple, pour qu'il soit le plus efficace possible. Et voilà, c'est le paternalisme dans toute son horreur. Oui. Quoi.
Le pays est riche en hommes, notre sol est riche en minerais.
RTB Belgique.
Sur des plateaux arides, le nouvel âge a créé sa magie nouvelle.
1955.
Des paysages aux structures étranges. Les hommes du Congo ne sont plus une énigme pour le reste du monde. Ils contribuent au bien-être universel. Le continent noir est tiré de son sommeil millénaire.
Et les distractions, c'était quoi? Il y avait du cinéma, du théâtre?
Oui, il y a le cinéma, le théâtre, le sport. Donc le chef de cité devait tout faire pour entretenir le travailleur, pour qu'il n'ait besoin de rien. Pour que le lendemain matin, quand il se lève, qu'il va au travail, qu'il soit dans de bonnes conditions pour produire. Donc, il ne lui fallait pas quitter le camp ici pour aller à Kamalondo pour boire.
Oula.
Oui. Alors, s'il va boire, soit qu'il s'enivre et peut rentrer très tard, et le lendemain matin, il sera dans un état tel qu'il ne saura pas produire comme il faut. Il se pourrait qu'il passe la nuit là-bas, avec des femmes, etc.
Oula. Oui. Quelle horreur.
Alors là, c'est l'absentéisme. Il fallait lutter contre l'absentéisme. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour ne pas connaître une fréquentation à Kamalondo, etc. On a créé le cercle récréatif. C'est là que le travailleur va boire jusqu'à une certaine heure. Par exemple, 21h, on termine la vente de la boisson. À 22h au plus tard, il doit être déjà chez lui. Comme ça, le lendemain matin, le travailleur est apte pour produire comme il faut.
Oh, Là c'est le secrétaire, ça c'est l'autre soliste, ça c'est notre bassiste, en même temps il est conseiller. Voilà.
Et vous êtes le président, président Elliott.
Eh oui, Mujinga Kamanganzemba Elliott.
Voilà, Elliott, le président de quoi? Le président de Jekoke. Et Jekoke, vous vous souvenez, on les a déjà rencontrés au cours de ces pérégrinations à travers le Katanga. Le Jekoke, c'était un groupe musical qui jouait dans ce cercle récréatif à l'époque, dans ces années de l'Union minière du Haut-Katanga, et qui jouait pour les ouvriers, les mineurs noirs, du quartier noir, du camp noir, et qui leur donnait des distractions, qui les faisait danser et s'amuser, mais jusqu'à une certaine heure seulement. Aujourd'hui, ils sont toujours là, ils sont magnifiques, avec des costards formidables, des chapeaux, des grandes chaussures blanches et noires. Ils sont très gais, très sympathiques. Et voilà un peu des fragments de leur histoire.
Moi-même, j'ai commencé avec... J'avais 12 ans, le mois que j'ai commencé. C'était en 1957. Après, nous avons formé notre groupe qui s'appelait Jekoke. Jekoke, c'est-à-dire Jeune Comique du Katanga à Elisabethville. Premier nom.
Jeune Comique du Katanga à Elisabethville. C'était pas encore le Mumbashi, c'était encore la colonie.
Oui, c'était avant l'indépendance.
Et donc, en fait, vous étiez le groupe de musique officiel de la Gécamines.
Oui, la Gécamines nous payait.
Alors, on faisait, s'il s'agit de mangeurs de cuivre, comme la fête des mangeurs de cuivre.
La fête des mangeurs de cuivre.
Fête de mariage, comme le 1er août, fête de Noël, dans toutes les manifestations organisées par l'Union minière. D'accord. Alors, on danse pour égayer les travailleurs.
C'était les ambianceurs de la mine.
Oui, les ambianceurs, surtout à la mine de Kipushi. Après les durs travaux de la mine, ils sont au cercle. Quand ils veulent prendre un petit verre avec les amis, bon... Les jekokés sont là, ils sont en train de les égayer. Et même jouent, ils dansent, ils essayent de...
Ils ont copié les pas de danse.
Ils ont copié les pas de danse, oui.
Alors, ça racontait quoi ces chansons? Ça racontait des histoires d'amour, des histoires de travail, des histoires de contestation, c'était quoi?
Oui, c'était les chansons d'abord conseiller les masses.
Ah, c'était pour éduquer les masses.
Voilà, l'éducation des masses. Comment il faut se comporter, comment il faut travailler, il ne faut pas s'absenter souvent au travail, il faut toujours être présent au travail, à l'heure, c'est pas souvent en retard, vous voyez.
Alors, est-ce que vous parliez d'amour, est-ce que vous parliez des filles aussi?
Oui, même de l'amour. Hein?
Pourquoi tu m'as quitté? Je t'aimais tellement, qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, je reste seul avec cette fraîcheur du 5h du matin, je suis seul au lit.
Reviens tout de suite, reviens.
Reviens. Mon Dieu, reviens, ma chère.
Ah, parce que les femmes font ça aussi, ici.
Ici aussi.
On sort une petite enveloppe avec des documents à l'intérieur.
Il faut des preuves. Hein.
C'est la revue de presse, d'accord, c'est le dossier de presse avec une vieille photo d'un magazine de août 1958 où on vous voit en photo.
C'est quand même élégant. Waouh, le costume blanc, le Panama, les petites chaussures noires, la marque du costume bien à l'extérieur, sur la manche. C'est le vrai chic africain, là, hein. Là, ils assurent tous les trois autour d'un micro. Génial.
C'est toute une troupe.
Alors, il faut dire par moment, il y a eu jusqu'à, au total, 35 000 travailleurs salariés de la Gécamines. Donc, vous faisiez la tournée, parce que ce n'était pas seulement à Lubumbashi.
Partout.
Ikossi, oui. Ikossi, Kipushi. Ici, même à Lubumbashi, on tournait toujours.
Et vous aviez du succès?
Même trop de fanatiques.
Trop de fanatiques qui aiment la brincade. Même aujourd'hui, toutes les mamans qui sont appelées maintenant des vieilles mamans, elles ont exhibé cette danse-là.
Mais à l'époque, les gars, ce n'étaient pas des mamans, c'était des jeunes filles à l'époque.
Elles étaient jeunes, trop jeunes là. Elles aimaient cette danse.
Et elles aimaient les musiciens qui faisaient la musique, j'imagine.
Ouais. Quand j'ai manipulé les guitares,
elles
troublaient tout.
Thank you.
du soir, soir les kalikembe, baby baby soir, soir les tchaloa, baby baby soir, soir les kalikembe, baby baby soir, soir les tchaloa, baby baby soir, soir les kalikembe.
Oui, jusqu'à 35 000 ouvriers dans cette entreprise au Congo, au Katanga, jusque ensuite, ça s'appellera la Gécamine, jusque dans les années 80, même 90, c'était encore assez prospère. Le Congolais, conscient de sa personnalité, doit être traité en homme. Il a le respect de la hiérarchie, il désire un chef. Si vous montrez les qualités requises, vous serez ce chef. Voilà quelques conseils, extraits de conseils donnés par l'Union minière du Haut-Katanga. C'est extrait d'une brochure qui a été remise aux Européens engagés par l'Union minière en 1954. Ça donne une idée de l'évolution des relations. Comment la domination sait changer de masque? Il faut jamais être en retard d'un masque si on veut lutter. Tant soit peu. On retrouve Donatien Dimbwe de l'université de Lubumbashi, donc dans cette immense friche industrielle qui est aujourd'hui l'Union minière du Haut-Katanga, la Gécamine.
Est-ce qu'on développe, comme en Afrique du Sud, l'idée d'apartheid, c'est-à-dire qu'on sépare les Noirs des Blancs?
Oui, pas comme en Afrique du Sud, mais ici, le camp ici est construit après la rivière Lubumbashi qui passe. Hein. Nous sommes passés par le pont là. Et ici, c'est le camp des travailleurs avec leur hôpital. Et de l'autre côté, vous avez le quartier Makomeno, ça c'est pour les Blancs. C'est-à-dire qu'il y avait la ville noire et la ville blanche. Maintenant, il y a des discussions pour dire que la ville blanche n'était pas que habitée par les Blancs, parce qu'il y avait les domestiques noirs.
Ah oui, c'est ça la mixité.
Pour atténuer un peu le caractère ségrégationniste. Mais en fait, les domestiques étaient là avec leur famille. Dans la ville blanche. Mais les Noirs étaient chez eux et les Blancs chez eux. Et il y avait même une ceinture hein, de sécurité.
Ah, entre les uns et les autres.
No Man's Land, oui.
Ah, No Man's Land.
Oui.
Oui, comme en Afrique du Sud.
Oui. Et même maintenant, au niveau des Blancs, il y a ceux qu'on appelait des petits Blancs et des grands Blancs.
Oui.
Par exemple, les Portugais, les Grecs, eux n'étaient pas considérés comme les grands Blancs.
Ce n'étaient pas des vrais Blancs.
Non, les vrais Blancs, c'était les Belges, c'était les Français, c'était les Anglais, qui habitaient un peu à l'intérieur de la ville.
Et tout ça, pendant ce temps-là, la Belgique se développe. Bruxelles se développe.
Oui.
Et devient une ville formidable. Enfin, c'est la grande ville et la grande vie.
Oui, oui. En fait, le Congo, c'était une colonie. Et la colonie est faite pour quoi ? Pour être exploitée. Donc, nous étions une colonie d'exploitation. Comme toutes les colonies d'exploitation, nous étions en même temps le débouché et en même temps le truc pour fournir la matière première qui permettait le développement de la Belgique et le développement de la population. Prenez par exemple le cas du cuivre. Celui qui vend, c'est le Belge qui vend chez lui. Ce n'est pas le Congolais. Nous, on était exploités. Mais à la base, c'est la Société Générale de Belgique qui finançait et la Gécamine et la Forminière, la Miba au Kasaï.
Ça vous intéresse ? Ils se racontent là, hein, tous les quatre. Ils sont en train d'écouter le professeur là. Toi, ça fait longtemps que t'écoutes. Tu savais tout ça?
Je ne connais pas l'histoire. Je voulais entendre le papa sur ce qu'il a dit là.
Hein, c'est intéressant, hein?
Oui, c'est intéressant.
Ah ouais, hein?
Je voulais entendre.
C'est intéressant ce que raconte le papa. Qu'est-ce qu'il y avait comme moyen de coercition que vous évoquez? Vous dites dans le quartier, dans le camp, on surveillait les travailleurs. Il y avait de la coercition?
Oui, la coercition, c'est par exemple. Avant les années 50, là, ils pouvaient être fouettés à la police, pas dans le camp.
Les travailleurs étaient fouettés?
Mais là, le fouet, c'était institué. Il y avait un décret, 100 coups de fouet au départ, et puis le nombre de coups de fouet diminuait avec le temps pour terminer. Oui, oui.
Ça a duré jusqu'à quand, ça, l'usage du fouet?
Jusque vers 58.
Ah, c'est très tard, quand même.
Oui, oui, oui.
Le Belge était assez fouetteur.
Oui, oui, oui.
Est-ce que des syndicats vont exister?
Les syndicats, avant, on ne pouvait pas accepter qu'il y ait un syndicat noir. Parce que déjà, en 1920, il y avait des Blancs, surtout sud-africains, qui ont commencé un peu à s'agiter. Mais alors, ici, à l'Union Minière, à l'époque, on va créer ce qu'on appelait les comités d'entreprise indigènes. Donc, un peu le père du syndicat, du vrai syndicat. Et ces gens-là vont commencer maintenant à voir l'employeur et lui parler des problèmes sociaux. Mais c'est en 1941, après la grève, que le syndicat va commencer, parce qu'en 1941, il y avait la grève, on a tiré sur les ouvriers. C'est dans ce camp ici qu'on a tué en 1941, non pas d'une centaine de morts.
On a tiré dans le tas.
Oui. La grève commence parce qu'il y avait déjà un mouvement parmi la population ouvrière blanche qui ont revendiqué, et les Noirs les voyaient revendiquer, etc. Certains Blancs qui disent aux Noirs, voilà, mais nous, vous voyez, on a réclamé, on a eu. Mais si aussi vous, vous pouvez le faire, vous pouvez réclamer, avoir. C'est ainsi qu'ils se sont dit, ah bon, donc on demande aussi une augmentation de salaire de 50 centimes. Alors, ils ont fait la grève, ils ont refusé de se rendre au service. Et le gouverneur Marron est venu, il a fait venir tout le monde pour les sensibiliser. Mais les gens lui demandaient, non, d'abord l'augmentation. Et je pense que, croyant que les Noirs qui étaient là devant pouvaient, par exemple, le frapper, quelque chose comme ça.
Le gouverneur Marron était blanc.
Oui, oui, il était blanc. Il aurait eu peur, il a sorti alors son revolver et il a tiré sur le premier qui était tout juste devant lui, Léonard Mpoi. Qui est tombé sur le champ. Alors c'était la débandade.
Oui.
Et à ce moment-là, au même moment, les militaires qui entouraient le stade tirent dans le tas.
Tirent dans le tas et tuent...
Une centaine. Il y en a qui parlent d'une quarantaine.
Entre 40 et 100 ouvriers noirs. Ça, c'est un massacre. Oui. Ça porte un nom.
Oui.
Alors, continuons. L'indépendance, 60, l'entreprise continue.
Bon, ça n'affecte pas au départ le fonctionnement de l'entreprise, hein. Mais ce qui affecte maintenant l'entreprise, c'est-à-dire que tout le monde est d'abord content de l'indépendance. Parce que tout le monde a dansé l'indépendance. Parce que tout le monde a vu comment il était traité avant. Alors après l'indépendance, il y a cette ségrégation qui n'existe plus. Hein.
Quand est-ce que l'Union minière du Haut-Katanga devient la Gécamines?
Avec Mobutu, en 67.
Mais elle appartient à qui? Elle est nationalisée? Elle appartient à l'État?
Elle est nationalisée à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est maintenant Mobutu qui nomme les PDG, etc. C'est là la source un peu de problème, parce qu'il est là, il peut faire des ponctions, il peut donner des ordres, etc.
Des ponctions, c'est-à-dire qu'il va se servir dès qu'il a besoin d'argent, et même quand il n'en a pas besoin, il vient se servir
parce
quand
que
même.
C'est lui qui nomme
son coffre-fort.
PDG. C'est lui qui nomme le conseil d'administration. Et puis, il faut savoir qu'il y a le impair qui vient, le parti État. Vous êtes employeur, vous êtes chef, vous devez d'abord être membre du impair, du parti État. Vous vous assumez en tant que membre du parti.
La friche industrielle qu'on a sous les yeux, c'est un résultat de la kleptocratie zaïroise.
Oui, avec parce que c'est Mobutu, c'est 32 ans. C'est 32
oui,
ans de
long,
règne.
Mobutu.
Oui.
Avec des épisodes différents.
Oui, mais si on sait ce qu'il avait dit, qu'après moi, le déluge, on peut croire que c'est
ça. Ça y voilà, le déluge est arrivé.
Oui. C'est un des résultats, quoi.
Ça, c'est des scouts qui passent en chantant. Parce que pendant qu'on parle, là, on est juste à côté du terril où il y a un petit pont. On voit des gens qui passent habillés sur leur 31 parce que c'est dimanche, qui reviennent de la messe.
Oui.
Il y a les scouts, là, qui passent en chantant.
Oui.
Et puis, on voit des gens qui travaillent, qui sont en train de trimballer des vélos chargés de sacs et de sacs.
Oui, oui.
Et ça, c'est ce qu'ils récupèrent.
Ils récupèrent parce que c'est... Mais ça, c'est l'exploitation artisanale, quoi.
Qu'ils vont récupérer au pied du terril des restes qu'ils vont revendre, c'est ça? Là, on voit des gars qui sont en train de pousser un vélo.
Les gars qui passent là. Là, ils ont piqué quelques sacs.
Oui, il y en a qui vivent de ça. Hein. Peut-être avec une complicité tacite. Parce qu'il y a une sentinelle là-bas.
Mais il y en a une sentinelle. Bon, c'est pas beaucoup de sentinelles.
Il est avec son uniforme vert au pied de sa guérite, sans trop bouger.
Regarde, c'est extraordinaire ce qu'on voit là. C'est comme une chaîne de montagne là-bas, les terrils.
L'horizon est barré par les terrils.
Ah ouais, c'est énorme. Vous avez connu quand ça fonctionnait, vous? Quand tout ça était en marche?
Non. Quand ça a commencé, quand c'était les anciens fours, non, moi je n'étais pas encore ici.
Ça devait être quelque chose, ça devait faire trembler toute la ville, là.
Tout à fait, puisqu'on produisait ici 600 tonnes par jour.
600 tonnes de cuivre par jour. Et alors, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, dans le paysage, tu vois, dans ce fond assez extraordinaire, de terril gris très très foncé, les silhouettes se découpent étonnamment. Hein, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains dans cette ruine, dans cette friche industrielle, mais quelques-uns. Et là, il y en a quelques-uns qui se dessinent sur ce fond, parce que noirs, qui sont des voleurs de minerais. On est très très observés, chaque mois est compté. Alors c'est très extraordinaire, parce que c'est un paysage industriel énorme.
Oui, c'est gigantesque, tout ça.
À des rouilles énormes. Là, il y a un engin derrière nous qui est en panne, un tas de rouilles et tout. Et puis, tu as quand même des petits voleurs comme des oiseaux qui viennent piquer un peu, qui font mettre des sacs sur leur vélo, qui graissent la patte des gardiens, qui sont vachement souriants, vachement gentils, et qui essayent comme ça de faire vivre un peu leur famille. Alors ils entassent ça, ils entassent ces sacs, et puis ben, ils revendent ça à ces sociétés, là, ces nouvelles sociétés qui se sont installées, des Chinois, des Indiens, qui leur achètent ça aux Noirs.
Ouais, le marché noir, ça prend tout son sens, évidemment, dans un endroit comme celui-là. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? On retrouve Guillaume Kongolo, le professeur Guillaume Kongolo.
Le dépeçage de la jacamine, ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose qui a été étudié avec beaucoup d'intelligence, bien longtemps, et qui est aujourd'hui en train d'être mis en exécution. Donc c'est un plan monté de longue date, et aujourd'hui, on récupère. C'est qu'on avait perdu, s'il faut le dire ainsi. Avec la nationalisation de la jacamine, c'est comme si les groupes financiers mondiaux avaient perdu la concession ou les concessions minières. Et maintenant, on revient et voilà, nous y sommes.
Oui, mais ce qui est assez terrible, là, on se fait. Des gens nous évoquent ce qu'était la vie au temps de la jacamine, le paternalisme capitaliste, comme on l'a eu en Europe. Et puis on compare avec aujourd'hui la condition des creuseurs artisanaux, qui sont absolument terribles, oui. Des conditions de vie infra-humaines. Et oui. on en est réduit presque à regretter le temps des colonies et le temps de la jacamine sous Mobutu avec ses conditions qui étaient quand même très infantilisantes et qui étaient d'inspiration colonialiste. Oui. Même si c'était le Congo indépendant, même si c'était le Zaïre de Mobutu, c'était quand même des conditions de travail et de vie qui étaient sans doute assurées, mais qui étaient infantilisantes.
Oui, hein, mais c'est là évident.
En tout cas, c'est ce que nous disent tous vos compatriotes.
Hein. C'est une réalité. D'ailleurs, moi, je vous dirais qu'il serait intéressant que l'on prenne un film réalisé par les Belges autour de 1910, lorsqu'on commençait l'exploitation des mines. À l'époque, il n'y avait pas encore des machines, comme à l'époque de la jacamine, quand la jacamine était jacamine, quand l'union minière était union minière. Il y avait les creuseurs qui travaillaient manuellement. On peut prendre ces films-là.
De 1910 et aujourd'hui
1911, moi j'ai fait ces films-là, 1910, 1911, 1912. Regardez, comparez ça avec les films réalisés aujourd'hui. Mais on se dira, on est retourné tout simplement
c'est le grand bond en arrière.
1910. Voilà. Donc c'est triste, ça c'est une réalité. C'est triste, bien sûr, le problème c'est que l'environnement international a changé. L'environnement international a changé avec la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, avec le triomphe de la mondialisation, c'est les capitalistes qui viennent, qui n'ont plus besoin des visages humains.
Plus besoin de corps humain.
N'ont plus besoin de corps humain, donc c'est l'argent qui produit l'argent. Et dans ces conditions-là, les conditions infra-humaines, je crois que vous avez visité les mines, ceux-là qui y travaillent, il faut dire, ce sont des suicides. Ce sont des suicides volontaires. Ce sont des personnes, en vérité, dont la mort est programmée. Et ce sont des conditions inadmissibles. Mais ils sont là, tout le monde s'en félicite. Ceux-là qui tirent, le petit groupe qui tire la richesse de cette exploitation infra-humaine-là, disent que la situation s'est améliorée par rapport à la situation à l'époque où la jacamine s'est effondrée dans les années 90. Donc, il y a création de richesses et il faut monter sur les toits et applaudir.
Merci à professeur Guillaume Kongolo, merci à Donatien Dimboué, au président Elliott et au Jay Coquet pour toute cette série. Merci aux amis
belgo-congolais à Pauline Imbach, Renaud Vivien, Antoine Chinkundu et aux membres du collectif Mémoire Coloniale et au CADTM. Merci à Ludo Devic, Lucas Catherine, Éric Toussaint, François Ricmans, Jean-Paul Rousseau, Jacques Brassine. Merci à Arnaud Zajman, Vladimir Cagnolari et Soro Solo, les copains de l'Afrique Enchantée. Merci à Bruno Minas de RFI, Fabienne, Gwen Dubourg-Toumieux, Jules Caboula, Jacques Caora, Riva Kalimasi, Albert Cambalé. Merci également à Yocadio Salmeron, Samba Tal, Sylvie Vandenwildenberg de la MONUSCO, Anneke Vondumberg du HRW, Émilie Serralta de Global Witness. Merci à Nicolas Boissès, Bernard Conchon, Jean Gandou, Jules Gala de Radio Capi. Merci à Didier Defaillé, Évariste Fiston, Akili, Aloïse Teguera, Elisabeth Cassins et Jean-Pierre du Carter Center. Merci à Guillaume Lacaille, Anissé Mobé, Jean-Paul Mopo, Kabanda, Timothée Mbouya, Kachinda Chinga, Jean-Pierre Mouteba, Luc Mukendi, Serge Kayembe, Tom Numbi, André Guichawa, Cédric Kalonji, Vincent Mounier, Thomas Deltombe, Marc-Olivier Herman et Isidore Daywell. Et puis surtout, merci à notre banquier de Lubumbashi, Volzac Kabeya, Kazwa Banga. Merci à tous. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Eric Morin et Michel Bézikian. Koy Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission et cette série modeste et géniale. Le reporter, vous l'aviez reconnu, c'était Guy Vanctil, assisté de Marina Touyez au montage, assisté également d'Agnès Lebot. Et nous attendons vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Nous sommes au Futuroscope pour vous parler de l'attraction imaginée par Luc Besson, Arthur, l'aventure 4D, un vol à dos de coccinelle au pays des Minimoys.
Madame, regarde un peu devant toi et appuie sur le champignon.
Un concentré technologique unique au monde pour vivre le grand frisson.
Oh, et c'est normal qu'on fonce droit sur une grosse toile d'araignée.
Maman.
Au Futuroscope, découvrez Arthur, l'aventure 4D, l'attraction préférée des visiteurs. Toute l'année, le séjour Parc plus Hôtel est à partir de 49,50€ par personne. Futuroscope. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
16h01 sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis, les infos, Corinne Audouin, salut.
Pour la première fois, la justice chilienne ouvre l'enquête sur les circonstances de la mort de l'ancien président Salvador Allende. Allende est mort durant le coup d'état du général Pinochet qui avait renversé son gouvernement le 11 septembre 1973. Aucune action judiciaire n'avait été engagée depuis concernant sa mort. En tout, le régime militaire au Chili a fait plus de 3000 tués et disparus. Il se tient prêt pour une transition politique en Égypte. L'opposant Mohamed El Baradei sera de retour au Caire ce soir. Le prix Nobel de la paix et ancien chef de l'agence de l'énergie atomique, l'AIEA, a l'intention de participer à la manifestation prévue demain. Mohamed El Baradei a plusieurs fois appelé au départ du président Moubarak en poste depuis près de 30 ans. Sur place, alors que les autorités égyptiennes annoncent avoir arrêté 1000 personnes en deux jours, l'Union européenne les appelle à respecter le droit de manifester. Dans le nord-est du pays, il y a eu des accrochages avec les forces de l'ordre. Des manifestants ont mis le feu à une caserne de pompiers à Suez. C'est la journée la plus sanglante à Bagdad depuis 3 mois. 37 personnes au moins sont mortes dans un attentat à la voiture piégée lors d'une cérémonie de condoléances dans un quartier chiite. La capitale irakienne a été le théâtre d'au moins 4 autres attentats qui ont fait 5 morts. L'Afrique du Sud retient son souffle alors que Nelson Mandela est hospitalisé depuis hier. L'ancien président, âgé de 92 ans, subit officiellement de simples examens de routine. Mais à son âge, tout peut arriver, a rappelé son ami Monseigneur Desmond Tutu. Depuis Davos, le président Jacob Zuma a toutefois appelé au calme et à la retenue. Assez parlé, il faut des actes. Dans une tribune publiée par Le Monde, Bono, le chanteur de U2, interpelle Nicolas Sarkozy. Très engagé notamment dans la lutte contre la dette des pays du tiers-monde, Bono écrit qu'il est grand temps pour l'homme pressé qui dirige la France et pour le monde de décider. Et le chanteur de regretter que le niveau de l'aide publique au développement baisse et que les promesses patinent en France et ailleurs. À Davos, devant un parterre de grands patrons réunis pour le Forum économique mondial, le président de la République qui préside le G20 cette année a prêché pour la régulation sur les marchés des matières premières. Nicolas Sarkozy s'est également prononcé pour la mise en place d'une taxe infinitésimale sur les transactions financières pour l'aide au développement. Le tribunal de Bobigny condamne à 4 mois de prison avec sursis 2 policiers de Seine-Saint-Denis. Ils sont reconnus coupables de violence lors d'une interpellation. Les faits s'étaient passés à Montfermeil en 2008 dans la cité des Bosquets. 15 à 20 ans de réclusion criminelle requis contre les 4 agresseurs de Bruno Viel. Ils sont accusés d'avoir un soir de 2006 passé à tabac, torturé et tenté de tuer tué ce jeune homme de 28 ans à l'époque parce qu'il était homosexuel. L'avocat général a souligné que le mobile homophobe était la seule et unique lecture de ce dossier. Le verdict est attendu demain aux assises du Val-de-Marne à Créteil. Un jeune homme britannique de 27 ans a trouvé la mort dans un ravin près de la station des Deux Alpes en Isère. La disparition de ce travailleur saisonnier avait été signalée. L'hypothèse accidentelle est privilégiée par les enquêteurs. Et puis après avoir obtenu le mondial de foot en 2022, le Qatar remporte l'organisation des championnats du monde de handball en 2015, à la grande déception de la France qui espérait l'emporter.
Tous les jours,
ravage, cagoule et soumission.
À partir de 11h...
Mais qu'est-ce que c'est que ces cochonneries?
Le fou du roi.
Stéphane Bern.
Prends-lui la main.
Vous, ça y est, 2011, on lâche tout, on trempote les invités.
Pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du Festival d'Angoulême, avec Jean Van Hamme, Varu, Ninon Tico, Benoît Mouchard et Charles Berberian, rendez-vous demain vendredi dès 10h à l'espace Franquin du Festival.
Mais oui, bon Dieu.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi, Stéphane Bern, ben oui, tous les jours sur France Inter, à partir de 11h. France Inter.
La différence.
16h05 sur France Inter, l'heure du carrefour de l'Odéon, présenté par Frédéric. L'Odéon, bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, que des nouveautés aujourd'hui. Pour commencer, un joli chœur, la Maîtrise de Paris, dirigé par Patrick Marcot, et on va entendre un enregistrement qui a été fait par le truchement d'Auvers-sur-Oise, le fameux festival dont nous sommes les partenaires ici à France Inter. C'est au printemps et on y reviendra évidemment plus tard, mais c'est bien frais, c'est bien chantant, et surtout le titre de cette pièce de Rossini, ça ouvre les portes, la Speranza, c'est-à-dire l'espérance, on en a toujours besoin.
Oh,
Rossini, La Speranza, l'espérance, interprétée par la Maîtrise de Paris, dirigée par Patrick Marco, et au piano, il faut saluer Christine Lajarige. Notre ami Yves Riesel, entre autres patron du label Naxos, j'ai bien dit entre autres, parce qu'il a plein d'activités pour la musique et pour le disque, il vient d'être décoré d'ailleurs au nom de l'État français.